Le docteur Baudouin Forgeau-Darc est avec nous, psychiatre et chercheur régulier à l'hôpital Rivière des Prairies. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Oui, ça va bien, merci, et vous ?
Oui, alors écoutez, d'entrée de jeu, on va définir l'autisme, parce que ce n'est pas évident pour les gens de savoir ce que c'est, qu'est-ce que c'est justement que des troubles du spectre de l'autisme ?
Oui, alors le trouble du spectre de l'autisme, c'est défini comme faisant partie de ce qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux, ça veut dire des troubles qui commencent dans l'enfance et puis qui évoluent avec le développement. Ce n'est pas quelque chose qu'on attrape à un moment, même si c'est quelque chose qu'on peut diagnostiquer à différents moments de la vie. Et puis c'est défini par deux catégories de particularités, ce qu'on appelle l'altération de l'interaction sociale. C'est des gens qui ont des difficultés à communiquer, à s'insérer, à avoir de la réciprocité sociale. Et puis un deuxième pôle de particularité qui est des comportements qu'on considère comme plus répétitifs, des intérêts qui vont être plus focalisés sur certaines choses, et puis un fonctionnement qui va être plus orienté vers les aspects plus sensoriels de l'environnement.
Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux ? Parce qu'on entend souvent parler, quand on voit des gens, on se dit, bon, c'est sévère, non sévère. Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs quand l'autisme, il y en a qui sont capables de communiquer, il y en a qui sont incapables de communiquer, et est-ce qu'on on donne des catégories ?
Oui, tout à fait. Alors justement, ça c'est la nouveauté avec le DSM-5, c'est de plus fonctionner avec des catégories comme on le faisait quand on parlait des TED, mais de fonctionner avec plutôt une seule grande catégorie et puis à l'intérieur, différents niveaux. Alors on définit plusieurs choses avec le diagnostic, donc la définition c'est ce que je vous disais, c'est ces deux pôles, et puis effectivement plusieurs degrés. Alors on parle en besoin de support quand on parle du degré d'intensité, si on veut, on peut dire aussi de prototypicalité, parce qu'on peut être autiste de façon très caractérisée, ou au contraire, être dans une situation où l'autisme, finalement, définit seulement une petite part de nos comportements. Donc, on définit ça, le niveau d'intensité des symptômes, on le définit par le besoin de support. On dit nécessite du support, nécessite beaucoup de support, ou nécessite un support très important.
Bon.
Et puis, les autres choses qu'on va définir, ça va être le niveau de fonctionnement intellectuel, parce qu'il y a un certain nombre de personnes autistes qui ont pas juste l'autisme, mais qui ont aussi une déficience intellectuelle,
oui.
L'existence d'un autre trouble psychiatrique, parce que il y a même des personnes qui considèrent actuellement que c'est pas forcément l'autisme en tant que tel le handicap principal ou le problème chez la plupart des personnes autistes, mais ça va être le fait d'avoir en plus un trouble psychiatrique comme l'anxiété, la dépression, etc. Et puis enfin, on définit le niveau de langage, parce que pareil, au sein des personnes autistes, on parle de personnes qui parlent pas du tout, pour certaines jusqu'à l'âge adulte,
oui, c'est ça.
Aucun langage, et puis d'autres au contraire qui vont avoir un langage tout à fait fonctionnel. Donc il y a différents niveaux, et c'est maintenant tous ces spécificateurs qu'on va ajouter au diagnostic pour permettre d'avoir un portrait de la personne et de ses besoins.
Alors, docteur Forgeau-Darc, on dit en ce moment que les diagnostics de TSA sont en hausse. Est-ce que c'est dû à une augmentation réelle des cas ou le fait que les TSA sont mieux détectés qu'avant ? Parce que c'est une bonne nouvelle.
Oui, ça fait plusieurs années qu'on parle de cette augmentation-là. C'est vrai qu'actuellement, on dit autour de 1%. Il n'y a pas de raison actuellement de penser qu'il y a une vraie augmentation du nombre de personnes affectées. Il y a certainement les effets de projecteur sur l'autisme qui expliquent essentiellement. Un des moyens de le voir, par exemple, c'est qu'on voit beaucoup de substitutions diagnostiques, c'est-à-dire parallèlement à l'augmentation du nombre de diagnostics d'autisme, il y a d'autres catégories de diagnostics dont la fréquence va diminuer, ce qui suggère que des gens qui auraient eu dans le passé ces diagnostics-là, maintenant, ont plutôt un diagnostic d'autisme.
Bon. Donc. Alors, mais dans un sens, c'est assez positif de les détecter avant, parce que c'est toujours mieux.
Alors, oui, dans la mesure où, effectivement, c'est ce qui les caractérise. Parce que, comme je vous le disais, souvent, c'est pas la seule particularité de ces personnes. Hein. Beaucoup de personnes autistes vont aussi avoir un trouble anxieux, une dépression, enfin d'autres, un trouble du langage, autre chose. Donc, c'est bien qu'on mette l'accent sur cet aspect-là de la clinique et des particularités des personnes qui peuvent nécessiter du support, mais il faut pas négliger, et malheureusement, c'est ce qui peut arriver si on met trop l'accent uniquement sur l'autisme, c'est de négliger que ça va être des personnes qui peuvent avoir aussi besoin de support psychiatrique pour de l'anxiété, de support pour développer le langage, de support pour des apprentissages particuliers, etc. Donc, ce qui est important, à mon avis, maintenant, dans le diagnostic, c'est vraiment d'avoir une approche un petit peu multi-axe, multidimension, où, oui, on cherche les symptômes d'autisme, mais on néglige pas non plus le TDAH qui pourrait venir avec, l'anxiété ou d'autres dimensions.
Quelles sont les démarches à suivre, justement, quand on a un doute, on ne sait pas si notre enfant est autiste, qu'est-ce qu'on doit faire ?
Alors, en général, bon, ça dépend largement des âges, hein, mais en général, les interlocuteurs en premier, ça va être les interlocuteurs de santé ou d'éducation ou de première ligne. Donc, ça peut être le médecin de famille quand il y en a un. Ça peut être s'adresser aux professionnels de la garderie, s'adresser au CLSC. Actuellement, au Québec, il y a quand même une vraie alerte sur cette question-là. Nous, on se retrouve en clinique de diagnostic à voir des enfants qui ont à peu près entre 2 et 3 ans, hein, pour les plus jeunes. Donc maintenant, c'est quelque chose, alors que les symptômes sont le plus souvent visibles autour de 18 mois pour les formes vraiment caractéristiques. Donc maintenant, c'est très tôt, on va dire, qu'on arrive à diagnostiquer ces enfants, pour certains. Mais il y a toujours des formes qui vont échapper parce que justement, les symptômes ne sont pas forcément très nets dans la petite enfance. Et donc, il y a toujours des personnes adultes non diagnostiquées, des ados non diagnostiqués, etc. Mais à chaque fois, c'est voilà, c'est s'adresser à des professionnels les plus proches et puis qui vont pouvoir orienter, suivant la situation, vers des services plus spécialisés quand c'est nécessaire.
Alors, vous travaillez autant sur le terrain qu'en faisant des recherches. On en est rendu où au niveau des recherches? Est-ce que ça progresse?
Oui, ça progresse. Il y a beaucoup de choses sur plusieurs fronts, on va dire, hein, parce qu'il y a des recherches qui cherchent à mieux caractériser, parce que finalement, c'est pas très simple de savoir quelles sont finalement les particularités des personnes autistes dans leurs interactions sociales. À un moment, on disait ils comprennent pas, par exemple, ce qu'il y a dans la tête des autres, ce qu'on appelle les états mentaux, et ce qu'on appelait la théorie de l'esprit. Puis on s'est rendu compte que c'était un peu plus subtil que ça. À un moment, on disait ils reconnaissent pas les expressions faciales, ils reconnaissent pas les émotions des autres. Ben, pareil, on voit des personnes autistes qui sont parfaitement capables de les reconnaître. Donc, on cherche un peu à préciser quelles sont les particularités, et c'est très possible que ce ne soit pas les mêmes chez toutes les personnes autistes. Donc, on va chercher à mieux comprendre ce qui explique leur difficulté à fonctionner dans la vie quotidienne, à la fois comme ça, au niveau des processus mentaux, on pourrait dire. On le cherche aussi en termes de... Il y a des avancées aussi en biologie, où on va essayer de retrouver les molécules, les aspects vraiment cérébraux qui peuvent être différents. Il y a des recherches aussi en génétique où on va rechercher quelles sont les mutations, les variants génétiques qui sont impliqués, parce qu'on sait que ça, on pourrait dire, si vous, sur les avancées concernant l'autisme dans ces dernières années, ben oui, on sait que des différences, des particularités génétiques, il s'agit de variants fréquents, par exemple, ou de mutations très spécifiques, expliquent une grande part de l'autisme.
De l'autisme. En terminant, bon, à défaut de traitement, il y a quand même des thérapies, des démarches qui sont importantes au niveau médical.
Oui. Alors, en premier, j'ai envie de vous dire non, pas au niveau médical, justement. En premier, on parle plutôt d'éducation, on parle plutôt de stimulation, voilà. Et puis, on parle d'adaptation. C'est-à-dire, c'est des personnes qui vont, la plupart du temps, qui vont garder des particularités tout au long de leur vie. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas accéder à de l'autonomie, mais moi, j'ai entendu que parmi vos invités, il y a des gens qui sont très, très bien placés pour vous parler de ça. Mais en premier, voilà, ça va être développer d'autonomie, développer la communication. Et donc, voilà, ça va être surtout des approches qui vont être éducatives, réadaptatives, et puis apprendre aussi à l'environnement à s'ajuster à une personne qui a des besoins un peu différents. Alors, évidemment, de façon très, très différente selon qu'on parle d'un enfant, d'un adulte, d'une personne avec une déficience associée ou pas, d'autres troubles associés, médicaux, psychiatriques, etc.
Merci, merci beaucoup, docteur Baudouin-Forgeot-Darc. Merci.
Ben, ça m'a fait plaisir. Au
Au
revoir.
revoir.